Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue sur Bible Espoir et nous allons entreprendre une nouvelle méditation ce matin. Et le texte que nous allons étudier, eh bien, c'est tout simplement « La poursuite du vent, telle est la vie », soit avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Alors pour ce faire, nous allons ouvrir un des livres de la Bible que l'on appelle le livre de l'Ecclésiasme, le livre du poète, on peut dire cela. Et nous avons en effet eh bien, une introduction. Et nous pressentons et nous savons, d'après les commentateurs bibliques, qu'il s'agirait eh bien, du roi Salomon, où nous pouvons dire que nous avons l'idéal dans cette personne et qui a rédigé eh bien, cette pensée, eh bien, là, l'idéal du bonheur humain. Mais est-ce véritablement eh bien, les choses qui nous sont dites ? Ecclésiaste, chapitre 1er, et nous allons lire eh bien, tout simplement là, en effet, quelques mots. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, ce qui tend finalement eh bien, à nous rappeler que l'auteur, ce serait Salomon, le roi de Jérusalem, le roi Salomon. Alors nous avons en effet cette pensée, tout simplement, où il est dit ceci, « Vanité des vanités », c'est le verset 2, « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et puis, nous avons également, en effet, eh bien, dans notre texte, cette autre parole où il est simplement dit, au verset 11 du chapitre 2, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'ai prise à les exécuter. » Et la conclusion, en effet, c'est « Voici, tout est vanité et poursuite du vent, car il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. » Voilà, poursuite du vent, telle est la vie. Nous avons dans notre passage cette citation du mot « vanité » qui revient 25 fois et suivie très souvent dans notre texte, dans le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, toujours « vanité et vanité, poursuite du vent » qui résume la situation de l'homme sans Dieu, c'est-à-dire l'incrédule, sans Dieu ni foi, sachant que sur la terre, l'existence est vide et sans valeur. Ainsi, ce livre de l'Ecclésiaste conclut que les seules solutions aux problèmes de l'humanité se trouvent en Dieu, parce que celui-ci a mis dans le cœur de l'homme, et nous avons besoin de nous en souvenir, eh bien, la pensée de l'éternité. Oui, l'homme a la différence. Eh bien, d'un autre monde, le monde animal par exemple, eh bien, possède quelque chose en propre qui a été mis dans son âme, dans sa conscience, dans son esprit, la pensée de l'éternité, dans cette perspective de vivre toujours, certainement pas eh bien, dans notre corps charnel, notre corps terrestre, mais dans une autre dimension, celle de l'âme et celle de l'esprit. Alors nous avons quelques, en effet, réflexions à méditer. Vanité, autant courir après le vent. C'est ce que nous dit finalement eh bien, ce passage que je lis en détail, parce que nous croyons, Père éternel, qu'il nous apporte qu'il amplifie cette vérité que nous avons soulignée dans cette introduction. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, dit le poète par exemple, parce que c'est un poète. Vanité des vanités, tout est vanité, et ça se poursuit ainsi. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Au verset 4, il est dit « La génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Au verset 5, « Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se couche, il soupire, donc, et se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne en rond, etc. etc. » Donc, quelques, en effet, pensées qui introduisent eh bien, notre réflexion présente. Et puis, il y a naturellement eh bien, cette interrogation de la nature à travers son cycle perpétuel, car tout arrive, tout finit et tout recommence. C'est bien dans ce chapitre 1er au verset 7, cette affirmation, quand il est dit ceci, « Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. » Voilà pour, en effet, ce cycle perpétuel dont nous devons nous souvenir et que nous constatons, en effet, eh bien, tous les jours de notre vie. Que nous apprend l'histoire et les expériences que les hommes font sur la terre et quand que nous en retenons, nous, que nous en retenons, ce que nous pouvons en retenir. Donc, au verset 10, je continue à lire, « S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés, et avec naturellement, eh bien, la suite, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Ensuite, nous passons à la recherche de la sagesse. Les hommes s'évertuent, eh bien, là, à travers, eh bien, des réflexions, à travers la philosophie, à travers la religion, à travers toutes sortes, en effet, eh bien, d'occupations qui véritablement, eh bien, amènent l'homme à être ce qu'il est, un être intelligent. Donc, recherche de la sagesse. Être heureux, parce que nous savons que nous pouvons nous procurer ce bonheur à travers la joie. C'est peut-être un vertige que nous donnent les passions du bonheur, le propos du bonheur, ou ça peut être une folie. Et c'est bien ce qu'il nous est donné d'ailleurs, toujours au chapitre 1er, pour que vous puissiez suivre sur votre Bible en même temps, il est dit ceci, cette parole, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, car c'est là une occupation pénible à laquelle se soumettent les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi, et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Alors j'ai appliqué à connaître la sagesse, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie, les deux. J'ai compris que cela est aussi la poursuite du vent. Alors, nous avons aussi, eh bien, après la sagesse, après l'histoire, qui doit nous, normalement nous enseigner et nous apprendre à être sages et prudents, prévenants également, nous avons parlé du cycle perpétuel, car tout arrive, tout finit et tout recommence. Alors, nous avons en effet, eh bien là maintenant, à aborder les richesses et les plaisirs, les passions. Et c'est ce qui nous est dit au chapitre 2 et au verset 4, et au verset 8 plutôt, il est dit cette parole, « Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que ceux qui avaient été avant moi. » Richesse, passion, plaisir. Alors, la question qui se pose maintenant dans cette, en effet, introduction, pourquoi vivre? Quel est le sens, quelle est la signification de notre présence sur la terre? Nous venons, nous vivons et nous partons. Alors, pourquoi vivre? Parce que Dieu, de qui tout vient et vers qui tout va, est l'aboutissement de ce cheminement, de cette aventure terrestre, eh bien, c'est tout simplement la mort. Mourir, et c'est ce qui nous est bien précisé, au verset 18, toujours dans le chapitre, en effet, premier, « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente son, en effet, augmente sa douleur. » Poursuite du vent, nous pouvons le dire et l'affirmer. Cependant, la nature nous apprend ses vérités, où le mouvement perpétuel, ce mouvement universel et ce mouvement que nous pouvons qualifier d'éternel, nous avons à retenir ceci. D'abord, une première chose, c'est que le monde végétal, et en particulier les arbres, en particulier donc ces végétaux naturellement, nous apprennent que la croissance, que le développement et même l'épanouissement exigent, en effet, eh bien là, la patience et la tempérance, je dis bien le monde végétal. Ça nous apprend finalement ce que c'est que se développer, croître et s'épanouir. Patience et tempérance. Nous vivons dans un monde où tout va très très vite. Et je crois que nous zappons certainement beaucoup de choses qui pourraient peut-être, nous inspirer. Ensuite, il y a, après le monde végétal, il y a le vent. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Le vent, lui, nous instruit que nous pouvons changer de direction, que nous pouvons changer de vitesse à notre guise. Dans un monde de folie, dans un monde, en effet, qui nous emporte vers toutes sortes de technologies. Le monde, en effet, a tellement fait de découvertes. L'intelligence humaine a été, en effet, et encore nous ne connaissons pas tout aujourd'hui, mais le vent, eh bien, nous montre bien que nous pouvons changer de direction, que nous pouvons prendre une autre vitesse d'exister, de vivre notre vie, au lieu de se précipiter dans toutes sortes de choses qui nous épuisent, qui véritablement, gâchent. En effet, certainement, peut-être les plus beaux jours de notre vie. Ensuite, nous avons besoin de laisser les fleurs nous enseigner que la belle chose de la vie, comme les fleurs, ne fleurissent pas toute l'année, sinon à leur saison. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est une grande vérité, parce que à vouloir tout de suite, à vouloir tout consommer, à vouloir finalement, précipiter ce qui nous est donné, ce qui nous est proposé, alors nous souvenons que les fleurs, c'est vrai, ne sont pas florissantes, chaque jour et toute l'année. Et puis nous avons besoin de considérer que les mers et les océans, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, peuvent être à la fois calmes ou puissants, doux et déchaînés. Vous voyez, lorsque, en effet, nous nous promenons, sur le rivage des mers, de l'océan, nous voyons que quelquefois, tout est calme, tout est en effet paisible, ou alors, par certaines saisons, en certaines saisons, il y a là quelquefois des déchaînements qui font des ravages, qui font finalement beaucoup de dégâts. Et puis, il y a le monde de l'animalité. L'animalité, je pense aux fourmis et aux abeilles. Parce qu'elles nous laissent une leçon à collaborer ensemble. Si vous regardez une ruche, par exemple, vous verrez que tout est bien organisé. Parce que ça nous amène à avoir une pensée sur l'unité. Et alors que lorsque nous voyons finalement le monde, comment il se comporte, les nations, les régimes politiques, etc., etc., nous voyons que c'est véritablement une mosaïque où les hommes s'entretuent parfois et vivent une vie d'opposition. Alors, pour construire, bâtir, avec cette pensée de solidarité les uns pour les autres, et non pour détruire. Et puis, nous pouvons penser aussi aux étoiles, que les étoiles brillantes dans le ciel nous rappellent que dans l'obscurité de la nuit, elles sont indispensables pour éclairer au petit matin des jours radieux. Oui, c'est vrai que la nuit fait peur, l'obscurité, le crépuscule qui arrive le soir, et puis, en effet, nous pouvons aussi découvrir dans un jour nouveau à l'aurore, des jours qui peuvent être bons ou mauvais, mais nous voulons véritablement, penser que les étoiles brillantes, elles brillent pour que nous puissions avoir de l'espérance. Et puis, quant au soleil, nous l'avons dit tout à l'heure, il nous donne la leçon que peu importe s'il se cache, si le soleil se cache parfois au regard des hommes, nous apparaîtrons dans la splendeur et le rayonnement de l'amour de Dieu. Parce que tout est l'aboutissement, en effet, pour l'homme, c'est véritablement de croire que Dieu a tout fait dans ce monde, sur cette terre, dans la vie des humains, de l'humanité, pour que nous connaissions son amour qui est l'apogée, qui est véritablement le summum de ce que Dieu a voulu en créant l'homme sur la terre, c'est de connaître son amour, et que par cela même, nous puissions véritablement découvrir que cet amour a un nom, il s'appelle Jésus-Christ, et ce n'est pas seulement en nous mettant sur la terre pour vivre ce que nous avons à vivre, mais que nous puissions connaître Jésus, comme le dit cette parole extraordinaire qui est le centre même de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le soleil parfois se cache dans nos vies, dans nos existences. Il peut se cacher, eh bien, brièvement, mais il peut se cacher aussi très longtemps. Mais si je regarde vers le ciel, si je regarde vers le soleil, il y a toujours la lumière et la splendeur et le rayonnement que je trouve dans l'amour de Dieu. Et puis, nous pouvons terminer par cette parole, ce sera un petit message aujourd'hui, eh bien, à la recherche d'une vraie signification de la vie, c'est bien de craindre Dieu, car sa sagesse et son conseil parfait, nous l'avons également dans le chapitre 2, et je voudrais relire ce passage. Puis j'ai considéré que tous les ouvrages, puisque nous avons fait un tour d'horizon là, à travers finalement les différents éléments de l'existence de l'homme sur la terre, que mes mains avaient fait et la peine que j'ai prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Alors, que Dieu nous bénisse à travers eh bien, ce message. Et je crois que quand il est dit de craindre Dieu, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas l'effroi, mais c'est quelque chose qui est lié à l'amour. L'amour de Dieu pour nous et notre amour, eh bien, pour lui, en retour, car sa sagesse et son conseil parfait ne manquera jamais d'assurer, et lui ne manquera jamais d'assurer ses promesses, comme nous le trouvons dans le psaume 32, versets 8 et 10, quand Dieu dit à l'homme, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quelle, en effet, compassion que Dieu a pour chacun des hommes qu'il a créés. « Alors j'aurai les regards sur toi, comme un père vis-à-vis de ses enfants, de son fils. » Parce que beaucoup de douleurs sont la part du méchant à cause de son incrédulité, de son refus, de sa rébellion. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alors que Dieu nous bénisse, et nous voyons qu'à travers eh bien, toutes ces données qui nous sont en effet fournies, moi je vous conseille, si vous le voulez bien naturellement, de reprendre le livre de l'Ecclésiaste que nous trouvons dans l'Ancien Testament, et de relire attentivement eh bien, ce chapitre 1er, ce chapitre 2, où il est question finalement de toutes ces grandes interrogations, de ces perplexités, où il est question finalement de la poursuite du vent, telle est la vie. Alors, est-ce que véritablement nous voulons investir eh bien, notre temps que nous passons sur la terre avec Dieu ou sans Dieu? Et nous voyons la grande différence naturellement, puisque, en effet, que nous nous livrions à l'activité laborieuse pour réussir, c'est-à-dire réalisation personnelle, la réussite, le succès, gagner, conquérir, comme nous dit le chapitre 2, verset 4, ou alors à travers les richesses, les plaisirs et les passions qui, quelque part, eh bien, là, aboutissent, si nous dépassons les limites, finalement, eh bien, là, à l'esclavage, à la servitude, alors la question se pose, pourquoi vivre ? Dieu de qui tout vient, vers qui tout va, et l'aboutissement, eh bien ce n'est pas comme nous l'avons affirmé tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement mourir, mais nous changeons de dimension à ce moment-là, lorsque nous quittons notre corps, pour rentrer dans une autre dimension qui est celle-ci, eh bien à la fois parfaitement morale, et également, eh bien, en effet, non seulement morale, mais spirituelle. Cependant, la nature nous apprend ses vérités, si nous voulons bien y prêter attention. Que Dieu nous bénisse! Que Dieu nous donne sa grâce. Et puis, je vous le recommande, en effet, de lire eh bien, le livre de l'Ecclésiaste, particulièrement ce que nous avons commenté tout à l'heure, les chapitres 1er et le chapitre 2. À bientôt pour une autre méditation que nous allons, en effet, eh bien, là, maintenant, vous proposer. Merci, que Dieu vous bénisse richement les uns et les autres.